Alors, mardi dernier, dans ce temple, sont venus environ une soixantaine de pasteurs de toute la région, de Mantes-la-Jolie à Sens, de Nanteuil-les-Maux à Troyes, et encore, on n'avait personne à Nevers parce que le poste de Nevers est vacant, mais en principe, on va jusqu'à Nevers, en passant bien sûr par toutes les banlieues parisiennes et Paris même. Une équipe de choc autour de Violaine a accueilli tout le monde et ils étaient très, très contents de leur passage ici. C'était une pastorale régionale. Et dans la matinée, nous avons eu une réflexion sur les lieux où chacun des pasteurs exerce. On nous a demandé de réfléchir aux signes concrets d'espérance en lien avec ces lieux. Alors, cela fait 3 ans que je suis avec vous, que je suis dans ces locaux de Montrouge, dans ce temple, un temple bien pensé, un temple récent, adapté aux personnes qui ont du mal à se déplacer. Et en fait, il y a même des personnes, il y avait Marc de Bonnechose qui est venu, qui a dit « Oui, j'étais là pour l'inauguration en 2004 ». Et il regardait, il disait ça a bien vieilli. En fait, ça n'a pas trop vieilli finalement. On ne voit pas que ça a vieilli. C'est encore voilà, dans un bon état. Et en effet, depuis que je suis arrivée, j'ai toujours dit ces locaux sont un bel outil pour donner envie aux gens de l'extérieur de venir, d'entrer dans le temple. Et bien sûr, c'est précieux pour nous. On est fiers aussi d'inviter. C'est une richesse. La semaine dernière aussi, le bureau de notre conseil presbytéral a rencontré le bureau du conseil presbytéral de l'église FJKM qui se réunit dans nos locaux tous les dimanches après-midi et parfois aussi le samedi et parfois aussi d'autres jours dans la semaine, selon leurs besoins. Et donc, on s'est rencontrés pour se mettre d'accord, pour entendre leurs contraintes et puis pour qu'ils entendent les nôtres parce qu'ils sont évidemment toujours tributaires de nos propres contraintes. Et puis, j'aimerais aussi rajouter que je reçois très, très, très régulièrement des appels d'autres communautés chrétiennes qui demandent des locaux pour venir faire leur culte. Alors, le texte d'aujourd'hui nous fait réfléchir justement à nos richesses, à nos biens. Et j'aimerais dire que ce beau temple est l'exemple d'une richesse qui est là pour d'autres. C'est une bonne richesse, j'ai envie de dire. C'est une richesse qui est là pour d'autres communautés et puis pour des personnes qui ont besoin d'entendre une parole d'espérance et qui viennent nous voir. C'est un lieu d'échange entre nous aussi, c'est un espace qu'on peut utiliser pour aussi partager. Et du coup, dans cette période où on retrouve quand même un peu de liberté et avec grande joie, eh bien, nous espérons nous ouvrir à ceux qui ont besoin de retrouver un lien humain. Parce que la foi nous apprend à devenir plus humains. Et j'ai tenu à commencer cette méditation avec cette richesse à entretenir parce que le texte que nous avons entendu dans Marc induit souvent de la culpabilité avant qu'on ait vraiment réfléchi à ce qui est dit. La question de l'argent et des biens est très personnelle. Et Jésus met en garde tout au long de l'évangile en disant « Attention, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Et il nous demande de réfléchir aux conséquences que nos richesses peuvent induire. Il souligne le danger de faire de l'argent un bien qui pourrait pervertir la relation aux autres et à Dieu, et j'ajouterai aussi à nous-mêmes. Alors, regardons un petit peu comment cette histoire se déroule. Jésus n'a rien demandé à cet homme, on ne sait même pas dans le texte grec que c'est un homme. Alors évidemment, c'est quelqu'un, ça pourrait être une femme aussi, pourquoi pas. En tout cas, ce quelqu'un court et s'agenouille devant Jésus, il ne vient pas pour une guérison, il vient poser une question urgente à Jésus. C'est une question spirituelle, une question vitale pour lui. La question est classique à cette époque. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? Alors Jésus répond de façon classique par les commandements, ceux qui principalement sont axés sur la relation à l'autre. Avec les catéchumènes, on est en train, et Gratiella est là, donc super, on est en train de travailler justement les commandements d'amour de Jésus et les 10 commandements, et tu as entendu, Gratiella, il cite uniquement les 6 derniers commandements. Et l'homme confirme qu'il les a respectés depuis sa jeunesse. On est en présence d'un croyant fidèle à Dieu. Il n'hésite pas un instant à dire « Non, non, j'ai tout fait, j'ai tout respecté, tout va bien, il est en accord avec ce que demande la religion juive. » Il pourrait continuer à vivre comme ça, en toute bonne conscience. Jésus n'en demandait pas plus. L'histoire pourrait s'arrêter comme ça. Pourtant, l'homme reste là, la personne reste là. Cette réponse ne lui suffit pas. Quelque chose en lui lui fait comprendre que la vie avec Dieu n'est pas juste une affaire de commandements à respecter. Alors Jésus voit que cela ne lui suffit pas. Et le texte dit, là c'est dans la traduction de la Tobe, « Jésus, ayant fixé son regard sur lui, l'aima. » Et ensuite il lui parle. Jésus le regarde de façon profonde. Jésus laisse parler autre chose en lui que des mots. Peut-être qu'à ce moment-là, il se met en lien avec Dieu, avec son Père. En tout cas, il laisse vivre cette partie d'humanité invisible et mystérieuse pour se relier peut-être à Dieu, mais aussi à l'autre, dans un lien qui peut devenir communion. Et ce mot ayant fixé du regard, on va le retrouver un petit peu plus loin, quand Jésus va regarder les disciples qui sont étonnés et même effrayés. Qui peut être sauvé ? Jésus, ayant fixé son regard sur lui, l'aima. Jésus le regarde et il l'aime. Et en fait, c'est évidemment le mot agapé qui est utilisé, cet amour inconditionnel de Dieu. Et cette remarque que Jésus aime, c'est, il n'y a que Marc qui le souligne. Elle n'est pas dans Matthieu ni dans Luc. Elle est unique. Elle en dit long. Sur l'accueil de Jésus envers cet homme, il l'aime sans lui faire de discours, il lui laisse son libre arbitre. Dans cet amour, Jésus est l'image de Dieu qui nous aime. Il nous aime dans nos questions, dans nos résistances, et c'est peut-être là qu'on a le plus besoin de son amour. Et Jésus lui dit « Quelque chose te manque ». C'est curieux quand même. On va apprendre que l'homme avait de grands biens et Jésus lui dit que quelque chose lui manque. Qu'est-ce qui lui manque ? Il ne lui manque pas la subsistance puisqu'il a des richesses pour subvenir à ses besoins. Il ne lui manque pas le lien religieux non plus puisqu'il a respecté tous les commandements depuis sa jeunesse. Il lui manque quelque chose qui a l'air d'être caché par ses biens puisque la solution radicale que Jésus lui donne, eh bien, c'est de vendre tous ses biens, de donner l'argent aux pauvres et de le suivre. Alors, peut-être avez-vous déjà rencontré des personnes qui ont de belles possessions mais qui ne sont pas heureuses. Et c'est vrai que c'est très difficile de savoir où est la limite entre ce dont nous avons besoin pour vivre en sécurité, avec éventuellement un surplus à donner à d'autres qui en ont besoin, et puis le trop-plein qui génère de tels soucis que cela masque la relation à l'autre et à Dieu. On oublie que Dieu existe, on oublie que l'autre existe. Il manque quelque chose à cet homme qui voudrait hériter de la vie éternelle. Même l'auteur du psaume 119 parle d'un manque. Malgré les dizaines, presque les centaines de versets sur les biens, c'est le bienfait d'obéir aux commandements, et ce psaume 119 se termine en disant « Je suis errant comme une brebis perdue, recherche ton serviteur. » Alors j'ai fait le lien avec l'homme riche. Peut-être que Jésus pense à cette phrase aussi en voyant cet homme devant lui. En tout cas, cet homme qui est venu s'agenouiller devant Jésus va être emmené ailleurs. Il était dans un registre religieux et Jésus lui propose la relation directe avec lui, la relation de foi, la relation de confiance. D'une relation d'obéissance à des règles, il ouvre à une religion de relation en lui disant « Viens et suis-moi ». L'homme demandait ce qu'il faut faire pour recevoir la vie éternelle, c'est-à-dire être sauvé dans l'au-delà. Et Jésus lui dit « Mais c'est maintenant que tu peux entrer dans le royaume. C'est maintenant sur terre, dans ta vie d'aujourd'hui, c'est en me suivant, en te reliant à moi, en te laissant guider, inspirer, au service de tous, avec ma présence à tes côtés, que tu pourras vivre pleinement cette dimension d'éternité. » Parce que si le royaume est promis pour l'au-delà, il est déjà là, à chaque fois qu'on s'ouvre à la présence de Jésus. Jésus déplace le « que faire pour » en un compagnonnage avec lui, et évidemment ensuite le « faire » devient une conséquence de ce compagnonnage. C'est comme si Jésus disait à l'homme « tu peux me faire confiance pour toute ta vie ?» La question que tu poses sur la vie éternelle montre que tu as peur de ce qui se passe après la mort. Tous tes biens ne te serviront à rien en fait. Mais tu peux dès aujourd'hui goûter à ce qui te sera offert dans l'au-delà, c'est-à-dire une présence d'amour inconditionnel. Goûte à ce Dieu bon à travers moi. Le royaume est déjà là, je le vis avec toi dès maintenant. C'est cela que Jésus aurait pu dire à l'homme. C'était un peu too much, comme on peut dire aujourd'hui. C'était un peu trop, quand même, pour cet homme. Il devient sombre et part attristé. Ça l'emmène trop loin, ça lui fait peur. Mais au final, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est peut-être une graine que Jésus plante en lui, dans son cœur, et on ne sait pas ce qu'il fera de sa vie. En tout cas, cette relation ne laisse pas Jésus indifférent. Comme si la tristesse était contagieuse, Jésus regarde tout autour de lui. Il constate les faits sans juger. Il constate en disant qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Le problème n'est pas tant d'être riche que de savoir si nos richesses et notre confort nous éloignent de Dieu. Si l'acquisition des biens est un but en soi, alors évidemment va s'infiltrer la peur de manquer, la peur de perdre quand on a, la peur de ne pas gagner plus. La richesse appelle la richesse et on en veut toujours plus et on se crée de nouveaux besoins. Alors, écoutons Jésus qui peut nous dire à nous aussi « quelque chose te manque ». Accueillons le manque comme un lieu de lâcher prise, un lieu de rencontre, un lieu de surprise, un lieu d'écoute. Et dans cette écoute, nous sommes déjà sur le chemin avec le Christ. Amen.